Alors, bonjour et bienvenue à ce 7e balado liquide. Bonjour Robert, comment tu vas ce matin?
Bonjour Louis-Jacques, ça va très bien.
Oui, ça va bien?
Superbe journée.
Excellent. Donc, après 8 épisodes en huis clos, Jean-Paul et Simone ont ouvert les portes du studio. Et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous ce matin Marie-Noël Fortin, qui est une des cavistes.
Bonjour les gars.
Ça va bien?
Super.
Alors toi, Marie-Noël, tu as joint l'équipe des cavistes il y a 7 ans, c'est ça?
Oui, 7 ans exactement.
Excellent. Et parle-nous un peu de ton parcours. Tu as commencé où?
De la sommellerie ou en général? Ben, dans le fond, j'ai toujours travaillé dans la restauration toute ma jeunesse. Et après, j'ai décidé que ça allait être mon métier et que j'allais passer ma vie à faire ça. J'ai fait une formation à l'ITHQ en sommellerie il y a environ 10 ans. Et je me suis joint à l'équipe il y a 7 ans parce que je trouvais que c'était le restaurant où il y avait la plus belle carte des vins dans le nord de Montréal.
Oh. Et au sud de Laval aussi.
C'est pas peu dire. Alors, on va revenir à toi plus tard. Tu vas nous présenter un des vins puis tu pourras aussi intervenir en tout temps. Si tu veux participer tu vas voir, à la fin de chaque vin, on fait un petit debriefing de chacun des produits. Alors, on commence aujourd'hui, Robert, avec toi, on s'en va en Savoie.
Effectivement, on s'en va en Savoie.
Dans l'appellation Bugey, c'est ça?
Oui, dans l'appellation Bugey. Et la Savoie, c'est vraiment, parce que, premièrement, c'est excessivement rare qu'on boit ce genre de vin. En fait, c'est bravo Louis-Jacques d'avoir trouvé un Bugey. Une appellation qui est assez particulière parce qu'elle est au confluent du Rhône dans son nord-ouest, de la Savoie dans son sud-est, de la Jura dans son nord-est et de Lyon dans son sud-ouest. Alors, c'est vraiment entouré de grandes appellations. C'est une appellation aussi qui est particulière parce que les montagneuses est assez escarpée à plusieurs endroits. Variété de sols donc qui sont au nord-ouest, un peu plus sur des sols de type rhodanien. Et on a des sols plus jurassiques quand on s'en va vers le sud-est. Et donc, ça donne des vins qui ont une typicité assez particulière, des vins alpins, en fait. Je ne sais pas si ça se peut, des vins alpins, mais c'est des étés chauds, des hivers continentaux assez frais. Donc, c'est des vins qui ont cette tangente qu'ont certains vins blancs à appeler de la nourriture grasse. Et là, je parle évidemment de la charmante soupe à l'oignon qu'on sert en ce moment au caviste, mais aussi c'est une région qui a son appellation pour les poulets de Bresse, en fait, ça vient de là, c'est la seule appellation où les poulets sont classés, on leur souhaite bonne chance avec la grippe en ce moment, c'est une appellation qui a différents types de vins. Dans le cas du Bugey, là, c'est une petite appellation de 550 hectares, c'est vraiment microscopique, on fait du Bugey blanc avec la mondeuse de Chardonnay, l'Altesse et la Jacquard, donc tous des noms de cépages assez à la mode dans les bars à vin de Rosemont en descendant, ou encore les Bugey rouges avec le Gamay et puis le Pinot Noir, à la Mondeuse, pardon, ou des rosés, et même des pétillants. Le producteur qui nous intéresse ce matin, il s'agit de Franck Pellon, qui a démarré avec son père en petite appellation, l'appellation Montagneux, en fait, qui est le lieu où est le vignoble, avec 1,5 hectare. Il est maintenant à 6,5 hectares. C'est quelqu'un qui travaille en culture raisonnée ou, je dirais, plus cartésienne dans son cas, c'est-à-dire qu'on y va avec le raisonnement logique de la viticulture. Il faut comprendre qu'à Bugey, dans une optique biodynamique ou organique, c'est un peu plus complexe à cause des inclinaisons et des pentes qui sont très, très grandes pour faire la culture. Donc, on a moins de capacité à pas remblayer notre sol, on a moins de capacité à ne pas désherber notre sol parce qu'il y a de l'effritement qui est fréquent. Donc, c'est quelqu'un qui se spécialise évidemment un peu plus dans les blancs. Son Bugey blanc à base de Chardonnay, on va goûter ça. Donc, c'est vraiment... Louis-Jacques, c'est quelle agence ça, qui nous fournit ça?
Ça, c'est l'agence Vinivin qui ont une belle... la gamme complète de Franck Payot. Dans le fond, j'ai commencé à travailler sa Jacquard au caviste en début de saison de cette année, début de l'année, et franchement, c'était un franc succès. Je ne pensais pas être en mesure de mettre la main sur des volumes assez substantiels pour mettre au verre et ou club de vin. Et Vinivin ont fait partir un courriel la semaine dernière, comme quoi que ça venait tout juste d'arriver. J'ai envoyé un courriel à ma représentante et toutes les as se sont alignés. J'ai dit, c'est vraiment un vin qu'on peut présenter sur un club de vin. Donc, un chardonnay, donc un cépage que tout le monde aime avec une identité, comme tu dis, alpine. Et je me permets, là, si vous regardez sur la bouteille, quand Robert parlait de montagneux, il faut comprendre que la Savoie, qui est une région très, très petite, a quand même un souci du terroir assez important. Donc, vous avez Bugey, qui est l'appellation générique. Et il y a quelques nomenclatures en mention de terroir, notamment montagneux. Donc, il est comme une forme de cru ou un lieu dit où plusieurs vignerons sont là. Et donc.
En fait, peu de vignerons, ils ne sont pas beaucoup.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est reste petit.
C'est l'appellation qui est un peu plus au nord, Cerdon, qui est plus connue, là, dans la mode vineuse. Mais là, on a affaire à un chardonnay de tension, des belles notes agrumées. C'est vraiment, c'est un très, très beau vin pour commencer notre dégustation. En fait, on a vraiment de la menthe fraîche, de l'acacia, une bouche très tendu, mais vraiment élégante. Moi, je suis très, très agréablement surpris avec ça. Et autant il se place physiquement de par sa trame aromatique en début de repas, autant il pourrait être ramené, selon moi, dans un repas, en milieu de repas avec justement un poulet, une poule au chou ou même avec une soupe à l'oignon en deuxième service. C'est un blanc qui va trancher du gras, qui va vraiment être vraiment très agréable, une fondue au fromage, si j'oserais, là, mais je sais qu'on fait tout ça.
Et toi, Marinelle, qu'est-ce que tu en penses de ce vin-là?
Moi, je trouve justement, belle acidité. C'est vrai que c'est gras, puis je pense qu'avec la soupe à l'oignon des cavistes, ça irait vraiment bien. Le gras du fromage, ça va aller vraiment bien. Ça va venir équilibrer la tension du vin.
Alors, il fait, si jamais le cœur vous en dit, il fait un Bugey rouge, montagneux rouge avec de la mondeuse, une roussette. La roussette, c'est de l'altesse, en fait. Faut juste pas s'exciter. Eux l'appellent roussette, là, mais c'est le cépage altesse.
Altesse roussette, qui porte les deux noms dans ce coin-là.
Et il fait aussi une méthode traditionnelle en pétillant là, qui doit être assez intéressante. 55 000 bouteilles, donc c'est assez rare.
Oui, c'est des bons rapports qualité-prix. Puis tu parlais de la mondeuse. Dans les jours à venir, elle sera ouverte aux cerises parce que j'ai sécurisé de la mondeuse pour cerises café buvette. Donc, et vous allez voir, Robert parlait de poule. Puisque c'est notre balado avant les fêtes. La ligne directrice de la sélection des vins de cet arrivage-là, c'est la dinde rôtie. Vous allez voir. Et c'est pas une farce ce que je dis là.
Oh,
non, mais...
la farce.
double blague.
La farce de la dinde, exactement. Donc, non, mais trêve de plaisanterie. On se demande souvent qu'est-ce qu'on doit servir à Noël pour le temps des fêtes. Donc, des vins blancs avec de la patine. Un gras, une texture, une onctuosité, et des rouges qui ont une belle fraîcheur. C'est souvent ça. Souvent, la volaille rôtie va beaucoup plus appeler le vin blanc, mais au Québec, en général, les gens préfèrent à table, au plat principal, prendre du rouge. Et souvent, bien, un rouge trop corsé, trop tannique avec de la volaille, ça ira pas bien. Donc, vous allez voir la trame des trois rouges également. Ça va être ça.
Alors, Louis, on passe au deuxième vin?
Oui, alors, on s'en va en Autriche. Comme vous pouvez voir, depuis les derniers arrivages, l'Autriche fait partie d'un pays chouchou, mais c'est un pays chouchou des sommeliers en général. Et pas juste au cavis où on se plaît à aimer ce pays-là. C'est un pays qui en donne beaucoup, qui s'est ouvert sur le reste du monde dans les 15-20 dernières années. Et des rapports qualité-prix plaisir sont vraiment agréables. Donc, c'est pas, on ne se fait pas payer par le comité interprofessionnel des vins d'Autriche de mettre ça en valeur. Là. C'est une question de goût. Après ça, par contre, ce qui est super intéressant, depuis le début qu'on vous propose des vins autrichiens, vous allez voir que la palette aromatique et de style, elle est quand même très, très vaste. On a commencé avec un Grüner de course. Mm-hmm. Après ça, on a eu un Riesling. Et là, on passe au Sauvignon Blanc. Donc, du domaine Rossner. Donc, en novembre, Montréal a eu le plaisir d'accueillir un salon des vins d'Autriche. Et c'est comme le début c'est le renouveau des salons de vins professionnels qu'on retrouve au Québec post-pandémique. C'est pas encore tous les vignerons qui font les voyages, mais pour celui-là, tu sais, il y a une partie de ces vignerons-là qui était du trip, donc qui était là. Et en marge du salon, j'ai reçu à la maison Stéphane Rossner, le temps d'un café, qui est le producteur derrière ça, qui est importé par l'agence Symbiose. J'aime bien visiter les vignerons quand ils sont en ville, souvent ils vont vouloir faire des soupers, vont se promener, mais j'aime bien les accueillir avec un café. Ça permet de prendre le temps puis de s'installer puis d'aller un peu plus en en détail. Et on a pris un café, oui, mais il m'a présenté la gamme, il m'a présenté le domaine. Et à la fin de la dégustation, il y a un vin qui est sorti du lot. J'ai dit, c'est exactement un vin qu'il faut que je présente à l'arrivage de la Société des Liquides. Donc, Stéphane Rossner, c'est un jeune producteur dynamique situé en Basse-Autriche, dans le Camtal. Et fait intéressant pour Marinelle et Robert, parce qu'on a pensé qu'on sait tout, mais c'est pas vrai. On n'arrête jamais d'apprendre. Non, mais pour vrai. Moi-même, j'ai appris quelque chose. Faut se comprendre qu'il faut se trouver des trucs mémotechniques pour apprendre des choses dans le milieu du vin. Et l'Autriche, c'est pas un langage qu'on connaît. On parle pas autrichien. C'est complexe. C'est très, très différent de l'Allemagne. Donc, des fois, de se remémorer l'Autriche d'un seul coup, c'est peut-être plus difficile. J'ai appris, grâce à M. Rossner, que Tal en autrichien veut dire vallée. Donc, Kamt, Tal, c'est la vallée de Kamt, la vallée du fleuve Kamt. Donc, Kamtal, Kremstal, qui sont toutes des régions au nord-ouest de Vienne, font référence au fleuve qui se jette dans le Danube. Et là, maintenant, dans les deux cas, bien, vous pouvez bien vous imaginer comme ça. Donc, on est dans le Kremstal, qui est la vallée du fleuve Krem. Et Stéphane représente la cinquième génération de vignerons dans sa famille. Il reprend l'exploitation avec son père Norbert à temps plein depuis 2014. Et Stéphane a débuté ses études de viticulture et œnologie à 15 ans. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir quelqu'un qui...
Il est tombé dans la soupe.
Il est tombé dans la soupe, exactement. Donc, il est basé à Camtal dans la sous-région de l'Angelos. L'Angelos, vous pouvez voir ça sur des étiquettes, mais à chaque fois que vous voyez l'Angelos, c'est seulement lié au cépage. C'est soit Riesling ou Gruner. Je pense que c'est Gruner. Oui, c'est lié juste au cépage Gruner. Et il fait aussi du Riesling et du Sauvignon Blanc. Et avec ce Sauvignon Blanc, j'ai tout de suite pensé à vous en dégustant ce produit. Car là, vous allez voir sur votre petit carton, je fais mention de macération. Donc, on est en présence d'un vin de macération, pour ne pas dire, dans le jargon m'as-tu vu de la sommelier, un vin orange. OK? Je ne vais pas m'étaler trop longtemps, pardonnez-moi, sur le sujet, parce qu'on a un atelier là-dessus qui s'en va en profondeur là-dedans. Mais grosso modo, le terme orange est un peu trop galvaudé et attribue une teinte qui est parfois pas du tout proche de ce qu'on a dans le verre. Comme vous pouvez le voir en ce moment, on n'est pas du tout sur une teinte orangée. Les vins de macération ou ambrés sont une catégorie en soi où les palettes aromatiques et chromatiques sont infinies et très, très, très larges. Pour faire simple, parce qu'on ne va pas entrer dans les détails, le vin blanc va rentrer dans la catégorie macération lorsque les températures de fermentation des raisins sont plus élevés, ils vont se rapprocher plus d'une température qu'un vin rouge parce que la plupart des vins blancs qu'on consomme sont fermentés à température beaucoup plus basse, près du 6, 7, 8 degrés versus les rouges, on va être dans les 16, 18. Et à ça va se rajouter une macération sur peau prolongée qui peut durer quelques jours à plusieurs mois également. Dans le cas qui nous concerne, on a une fermentation sur peau à haute température de une semaine dans des tonneaux de 500 litres. Et ensuite de ça, on fait un élevage prolongé sur lit après le décuvage. Et le vin fait aussi sa fermentation malolactique, donc la transformation des acides maliques en acides lactiques. On a déjà parlé de ça dans un précédent atelier, ce qui va amener un Sauvignon Blanc avec une trame beaucoup plus ronde, avec beaucoup plus de patine et quelque chose de tout en finesse, tout en élégance. Je vous invite à ne pas servir ce vin-là trop, trop froid. C'est vraiment un vin. Souvent, dans les vins de macération, il faut se rapprocher d'une température de service plus d'un vin rouge. Et je ne sais pas vous ce que vous avez au nez, mais vraiment, là, on a un bouquet qui est assez spectaculaire. C'est assez complexe.
C'est assez rond quand même au nez. Hein. Ça annonce vraiment de l'ampleur à la limite.
Et en bouche, tu n'as pas trop d'acidité. C'est assez comme horizontal en bouche plutôt que vertical et une trame tannique légère. Et moi, je pensais à ça, là, je pensais à un plateau de fromage. Vraiment, là, c'est le genre de vin que tu vas servir pas en début de soirée, mais en fin de soirée, tu as envie de boire, tu n'as pas envie de ressortir un rouge trop, trop charnu. Tu ouvres ça, tu bois ça avec un plateau de fromage. Il n'y a plus de fromage, fini la bouteille. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Non, c'est vraiment très, très beau. Moi, toi, je suis pas un amateur de par mon âge des vins oranges, mais celui-là... passe le test du quinquagénaire.
Exactement.
À sa couleur, on peut vraiment pas percevoir non. Que c'est un vin orange.
Exact.
Puis au nez, pour vrai, mon instinct, je savais très bien que c'était du Sauvignon Blanc, mais je trouvais qu'il y avait un côté litchi. Je trouvais vraiment qu'on était sur le fruit un peu... le côté exotique. Litchi du muscat d'Alexandrie. Fait que j'étais sûre qu'on était là-dessus. Puis plateau de fromage, je trouve que c'est une super bonne idée aussi, mais aussi avec des trucs, tu sais, des fritures. J'irais aussi avec le côté frit, même avec les desserts en fin de soirée, parce que je trouve qu'il va chercher des arômes de vin licoreux. Fait que je trouve ça super intéressant.
Il va avoir besoin d'un certain support en finale, parce que la bouche est assez courte quand même. Là. C'est très agréable, c'est une explosion, mais la finale va être supportée par un corps gras qui va faire voyager le vin plus loin. Exactement. Là. Donc, d'où le fromage, d'où les fritures. Ouais. Ouais, très bonne observation.
Puis, il n'y a pas trop de tanins. Souvent, non. Dans les vins oranges, tu sais, des fois, ça va, oui, c'est à l'arrache, puis là, il n'y a vraiment pas, d'amertume, merci. Il n'y a pas trop d'amertume. Je trouve qu'il est vraiment très, très droit comme vin orange. Je trouve ça super intéressant.
C'est le genre de vin orange qu'on servirait à quelqu'un sans mentionner
que c'est, exactement.
C'est un vin orange, ouais. C'est un vin de macération, et la personne ne peut pas comme, ah, mais là, moi, j'ai bu un vin orange à telle place, c'était pas buvable, puis tu sais, donc effectivement. C'est super intéressant comme produit. La parole va être à toi, Marie-Noël, pour le prochain vin.
Exactement.
On t'écoute.
Alors, moi, j'ai quelque chose d'un petit peu plus conventionnel. Je suis vraiment contente de mon choix. On est au domaine du Mortier. Domaine du Mortier, il y a deux domaines. Il y en a un sur la Loire. Moi, je parle de celui sur le Côte-du-Rhône. On est sur le terroir de Saint-Joseph chez Didier Crouzet. Alors, on est sur vin de France, 100% Marsanne, qui est encore une fois vraiment très, très parfumé aussi, celui-ci. Peu d'acidité. Je trouve que c'est vraiment un vin plus pour consommer en mangeant. La Marsanne, qui est un cépage, dans le fond, qu'on voit souvent en assemblage avec la roussanne, qui va vraiment aller donner l'équilibre, justement. La roussanne, elle est un petit peu plus acidulée. Alors, on va aller chercher l'équilibre souvent avec la roussanne. Mais celui-ci, il est vraiment plus un côté fleur. On va chercher comme un côté un peu plus mielé. Puis quand on le vinifie seul, il y a une fin de bouche un peu noisettée. Qu'est-ce qui est super, un fun fact dans le fond, en 1171, quand on a découvert les premiers écrits sur la Marsanne, c'était dans une abbaye féminine, dans la vallée du Rhône, ouais. Alors, c'est vraiment, ça a un nom féminin, et d'une abbaye, dans le fond, les premiers écrits, c'était d'une abbaye féminine aussi. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, ce serait par rapport aux chercheurs, la Marsanne, ce serait un croisement du vin des Mondeuses, dans le fond, de la région savoyarde que Robert parlait plus tôt, et de la Syrah du Rhône. Et M. Didier Crouzet fait 4 autres cuvées. Alors, dans le rouge, clairement qui s'identifie en tant que Saint-Joseph, il fait le blanc qu'on a présentement, un rosé et une bulle.
Moi, je trouve que le nord du Rhône en blanc, c'est toujours spectaculaire. Et puis ça fait pas mentir l'adage. Saint-Joseph, puis pour vrai, c'est des vins qui sont assez dispendieux à la base là, et qui sont assez rares aussi. Puis c'est pas des grosses productions. Là, on parle de Saint-Joseph, on parle de peut-être 1000 hectares de production, puis une grande partie en rouge.
Saint-Joseph, 90 hectares de production. C'est pas tant que ça.
Pour le blanc.
Oui, pour le blanc.
OK, parce qu'en général, c'est ça. C'est
OK.
Ça. Donc, c'est des micro-cuvées. Ce sont toujours aussi agréables que ça. Puis c'est des vins qu'on peut intellectualiser facilement. C'est-à-dire, moi, je me vois lire du Proust en buvant ça. juste les déguster. Juste comme pour le plaisir. C'est des vins de texture, c'est des vins de vraiment d'ampleur. Très bon choix, Marino, même si c'est pas toi qui l'as fait.
Et c'est qui le voisin de Crouzet aussi? Ça, c'est intéressant.
Ah oui, dans le fond, il se situe pas loin du Château Grillet. Alors, la plus petite appellation du Rhône septentrional de 3,4 hectares et qui fait que du blanc.
Et qui fait que du blanc qui a été racheté par une grosse marque de luxe.
Grosse marque.
Pour vrai, je pense que c'est LVMH qui a racheté ça.
Non, c'est le monsieur des épiceries françaises. Non, l'autre.
L'autre, on ne sait pas.
Ça nous revient. Si vous faites l'atelier Rhône, là.
Avant que ce soit vendu à une grosse marque de luxe, Château Grillet, j'ai jamais eu la chance d'en déguster dans ma vie.
Personne.
C'est très, très anecdotique comme production, mais bref, c'était comme 150, 250, et là, ça vaut le 500-600 $ la bouteille de Château Grillet. Donc, nous, on peut se permettre de la Marsanne du domaine...
Du voisin.
Et la Marsanne du voisin aussi, si je peux me permettre, c'est également un produit que je ne pense pas qu'on avait pu se permettre ça au verre, au caviste, question de volume, un peu comme Franck Peillot, comme je parlais avec Son Altesse. Et les astres se sont encore une fois alignés pour cet arrivage-là. C'est l'agence Plan 20 qui importe ça. Ça venait tout juste d'arriver, c'était disponible. Puis ça, c'est vraiment des vins. Quand on pense, oui, au club de vin, mais on pense aussi au listing ouvert au caviste. Là. Mon but quand je construis la carte, c'est de se renouveler autant bien que mal. Là, je veux dire, mais c'est vraiment un vin prédisposé pour ça parce que il faut partager ce genre de petites pépites-là.
Mais vous l'aviez déjà travaillé en atelier, je crois, hein, le domaine.
Oui, ben c'est un produit qu'on a eu pour la carte des cavistes. On l'a eu en atelier. Et aussi, c'est un vin qui était franchement bien apprécié de l'ensemble de l'équipe. Là. Souvent, quand il reste 3-4 bouteilles de vin, ben c'est le personnel qui va venir par les dégustés.
Je vais retourner. Je suis en train de griller le propriétaire. Ça me chicote.
Alors, pendant que Robert cherche sur le propriétaire du Château Grillet.
Mais il faut que je parle de...
Mais dans ce cas, je vais chercher sur c'est qui le propriétaire du Château Grillet. Et on poursuit avec une deuxième sélection du domaine Gabriel's Clouf que Robert va vous présenter parce qu'il est bien excité de vous parler de ce vin-là.
Ben oui, en fait, moins que toi qui écoutais un podcast sur Peter Finlayson pendant 2 heures, là, ça c'est comme... C'est du geek à fond la caisse. Mais essentiellement, en fait, ce vin-là a été découvert par vos humbles serviteurs il y a un peu plus d'un an, en fait, où on était en post-pandémique, on venait de sortir du Xème confinement, et j'avais vu passer ce vin-là sur des classements d'Afrique du Sud comme étant un vin un peu plus étrange, moins typé, un vin d'une région qui est moins connue, la Bot River, moins mise en évidence que Stellenbosch ou Elgin ou même Swartland. Donc, et puis, on s'est rendu compte avec nos relations mutuelles de vignerons qu'on a déjà que Peter Finlayson, ce domaine-là qui travaille avec la Gabriel's Clouf, ben c'était lui qui faisait aussi, qui servait de lieu où plusieurs vignerons font leur vinification, leur élevage. Et un de ces vignerons-là, c'est John Secombe. Alors, John était assez gentil pour nous introduire à Peter Finlayson nous donner une petite carte de sortie de prison gratuite parce que c'est quelqu'un qui est assez connu. C'est la famille Finlayson, c'est une famille, c'est la troisième génération, je pense, de producteur de vin. Il était plus à Walker Bay, il a parti un projet Cristallum avec son frère 2005-2006 dans ces eaux-là. Cristallum, c'est un vin qu'on va faire revenir à travers l'agence Raisin au printemps ou à l'été, Louis, avec des pinots noirs de course, on va le dire, qui sont assez spectaculaires. Mais ce domaine-là, Gabriel's Clouf, depuis 2006, je crois, il l'exploite, ou 2016, je ne me souviens plus trop, il l'exploite seul c'est un domaine qui se spécialise dans différents types de Syrah. Moi, c'est ce que j'en ai retenu. Il y a des Chenins, évidemment, il y a des Sauvignons, mais c'est la Syrah, en fait, qui parle. Et cette Syrah-là a la particularité d'être assez moderne dans l'âme parce que c'est vraiment une Syrah énergétique. Là. On n'est pas dans une Syrah lourde, potente du nord du Rhône, on est dans une Syrah nouveau monde qui va vraiment être de par sa vinification, en fait, parce qu'il faut le dire, là, j'aurais dû commencer par ça.
Le nom de la cuvée s'appelle comment, Robert?
Whole Bunch.
Bon. Et ça fait référence à quoi?
Ça fait référence à... On récolte en grappe entière et on fait ce qu'on appelle une macération carbonique. C'est-à-dire qu'on va soigner toutes nos grappes dans une cuve et c'est le poids de ces grappes-là, une sur l'autre, qui vont démarrer une fermentation parce que, évidemment, il y a des levures sur les raisins. On va fermer la cuve, donc on va être en milieu anaérobique, c'est-à-dire que la fermentation va se commencer, mais comme il n'y a pas d'air pour que les levures travaillent, bien, ça va commencer en anaérobie dans l'intracellulaire, c'est-à-dire à l'intérieur même du raisin. Donc, la fermentation va se faire comme ça, va commencer comme ça. On va juste faire ça une dizaine de journées. Et ensuite de ça, on va ouvrir la cuve pour continuer une fermentation un peu plus classique. Donc, mais ce que ça va faire, c'est que ça va concentrer les arômes. Ça va aussi permettre à ce que cette fermentation-là ne développe pas nécessairement des tanins, mais plus du fruit croquant. Dans ce cas-ci, donc, on va après ça mettre en élevage pendant 8 mois dans une cuve d'inox. Ça n'a pas une incidence majeure, mais quand même un élevage de 8 mois. Moi, je suis. On l'a goûté pour la première fois en Afrique du Sud. Vous allez me dire, vous avez commandé du vin sans le goûter. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. On l'a goûté en Afrique du Sud avant de le goûter au Québec. Et on était franchement impressionnés de la qualité du vin. C'est, comme je disais, c'est des petits fruits noirs.
C'est croquant.
C'est croquant, mais il y a du sérieux. Il y a une structure très ronde derrière, avec une certaine tapenade d'olive. Vous allez avoir les herbes qui vont se révéler, surtout après l'ouverture. Quand on va le laisser dans le verre un certain temps, ben là, vous allez avoir l'anis, le romarin, la sarriette. Moi, je sens là, ce matin, là, puis...
Le côté olive, le tapenade d'olive avec les herbes de Provence, moi, je suis là à fond la caisse.
Je la sens, je la mange.
Ouais, vraiment. Alors, c'est,
Moi, j'étais... Là, je sais que tu étais parti sur la poule, Louis, là, puis je n'avais pas vu l'information. On passe
non, mais
poule.
J'ai sorti mais ça comme moi, ça, mais moi, on peut sortir.
Je commencerais un ragoût de pâte de cochon avec ça, là. Je serais aux anges. Là,
genre, oui.
Un gros plat traditionnel québécois, là, puis là, tu viens le couper avec une certaine acidité, une certaine carbo, justement, mais supporté par un cépage qui est capable d'en prendre, je pense qu'on aurait beaucoup de plaisir.
Mais pour alors, prendre la balle au bon de ton ragoût de pâte de cochon, il faut comprendre que, en France, si on est en Provence, mais en Provence, en hiver, il fait quand même frais. Eux, ils ont la daube. La daube provençale, c'est quoi? Mais c'est leur rôti de palette provençale. Donc, c'est vraiment une palette, mais braisée au vin rouge, avec des olives, avec des tomates confites, servies sur des tagliatelles. Ça, avec ça, là, c'est comme le côté provençal de la chose. Je pense pas de mettre des olives dans notre ragoût de pâte. Ça serait du rendre service.
Mais tu sais, la sarriette, le girofle, la cannelle,
oui,
là, que tu as
dans quatre épices.
Même les tourtières. Ma mère avait beaucoup d'épices dans ses tourtières. Puis je trouve que ça irait à côté le côté épicé de la tourtière. Puis la pâte, là, le côté du gras de la pâte.
Oui, tout à fait. Non, je pense qu'on a un petit problème de est-ce que je peux en avoir plus? Les trois premiers vins.
J'ai des scoops pour vous. Là. Alors, ce produit-là, on en a, il va s'en aller au vert. La balance va s'en aller au vert. Si vous en avez plus, on peut vous en vendre. Il n'y a aucun problème. On a importé un peu de quantité. Mais ça ne reviendra plus jamais en importation privée parce que le prochain arrivage s'en va en SAQ.
Wow.
Donc, de notre voyage en Afrique du Sud, les acheteurs de la SAQ ont goûté ce vin-là, sont tombés en amour. Et donc, le prochain arrivage, on aurait reconduit le produit, bien entendu, en importation privée, mais ça s'en va en SAQ. Donc, c'est vraiment le fun. Ça nous confirme qu'on avait un bon flair. Non, mais c'est vrai. Et par contre, Robert dit qu'il faut que ça respire. Faites juste attention, température de service. Ouais. On le dit souvent, à servir frais, par contre. Là, nous, justement, on est dans un enregistrement. C'est le quatrième vin de l'enregistrement. Il sortait du cellier, mais là, il commence à être un peu trop chaud. Je trouve que de le servir un peu plus frais lui rendrait beaucoup plus service. Là, donc.
Et si jamais vous voulez en apprendre plus sur M. Peter Finlayson, vous pourrez faire le petit balado que Louis vous recommandera avec plaisir.
Oui, effectivement.
Qui est vraiment un peu assez rigolo parce qu'il y a un accent africain à couper au couteau. Voilà. Cinquième vin,
c'est très, très cool parce que je reviens sur l'information. Non, mais c'est le fun parce qu'on va parler d'acquisition de domaine par des hommes d'affaires très, très riches, des milliardaires, des millionnaires. Donc, je revenais avec l'information, c'est François Pinault.
Ah, c'est ça, Pinault.
Donc, François Pinault qui possède aussi Alexander McQueen, la maison de vêtements Saint-Laurent.
Château-la-Tour, c'est ça.
Ouais.
Château-Grillet et Château de la Mort-Mère, ça, je ne connais pas ça. Donc, pour vous donner une idée, j'ai fait mes recherches. Château-Grillet 2008.
Je parlais, c'est sympathique quand même.
Cœur de faire deux choses en même temps. Château-Grillet 2008. Donc, l'acquisition, ça faisait 191 ans que c'était au même propriétaire. Donc, ça a eu lieu en 2011. Donc, la SAQ a eu du Château-Grillet 2008. N'essayez pas d'en trouver, il n'y en a plus. C'était 245 $ la bouteille. Les roulements de tambour, si vous voulez acheter du Château-Grillet 2018, tiens donc, il en reste encore.
Oui, il en reste, OK.
Il en reste 10 bouteilles.
Où ça, au Centropolis?
Allonger. Non, sur SAQ.com. Okay. Donc, SAQ.com, 75 $. On livre gratuitement dans une SAQ près de chez vous. 541 $ la bouteille. Donc, pensez-y. C'est assez impressionnant.
Est-ce qu'on
mangeait
avec la dinde?
Je sais pas. On mange ça avec du caviar.
Farci au caviar.
Farci au caviar avec de la truffe. Mais bon, trêve de plaisanterie, on s'en va sur le prochain vin. On s'en va dans le Piémont, au domaine que j'affectionne particulièrement. Un cépage aussi que j'affectionne particulièrement, qu'on n'a pas l'occasion de déguster, monsieur, madame, tout le monde, parce que peu présent, c'est la Freisa. Donc, on s'en va dans le Piémont avec un vin qu'on a eu au vert au printemps dernier. Et je me suis dit que l'arrivage de fin d'année, au lieu de le reconduire au vert, ça irait sur le club de vin. plutôt que ça, sur la carte. Puis ça a vraiment été apprécié de tous, autant la clientèle, l'équipe en service. Vraiment, là, je me souviens même des dernières, des trois dernières bouteilles qui ont été vendues au caviste cet été.
Du personnel au bar?
Non, pas, non, cette fois-là, pas du personnel au bar. À une membre, on ne va pas la nommer, mais à une membre du club qui a pris les trois dernières bouteilles. Elle se reconnaîtra. Donc, on va commencer avec le mythe derrière la bouteille parce que c'est un domaine qui est assez historique. En 1761, Bartolomeo Borgogno fonde son domaine éponyme. 100 ans plus tard, le Barolo de son domaine est servi au lunch de signature du pacte de l'unification d'Italie. Quand même pas, pas rien, quand même. En 1908, son vin est servi à Nicolas II Romanov. Donc,
Juste avant.
Ah, oh, Robert, juste avant. Donc, pour ceux qui sont dans la dernière saison de The Crown, ouais. L'épisode 6 est consacré à cette famille qui est quand même mythique. Et il faut comprendre que les Romanov, donc Nicolas II...
Je ne sais pas bien, Robert.
Non. Ah, oh, Robert, ça suffit. Pour vrai, ça suffit. Mais en tout cas, ceux qui s'intéressent pas nécessairement à la série The Crown au complet, vous pouvez juste aller voir l'épisode 6 de la dernière saison. Juste en soi, c'est quand même un fait historique très, très intéressant. Puis vous pouvez pas... c'est pas important. Là. L'épisode 6 tout seul ne suit aucune ligne directrice, mais l'histoire de la famille Romanov est assez impressionnante. Et les Romanov sont liés à la famille britannique au Windsor d'Angleterre, de par la sœur ou le frère. Bref, ça remonte à la reine Victoria. Trêve de plaisanterie. Donc, ensuite de ça, on poursuit. En 1955, c'est un fait assez intéressant. Il faut quand même soulever ça. La France a fait beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses lame. En 1955, le comité interprofessionnel des vins de Bourgogne a poursuivi la famille Borgogno parce qu'il pensait qu'il avait utilisé le terme Borgogno, il avait italienisé le terme Bourgogne, et or que le gars s'appelle Bartolomeo Borgogno. Donc, ils se sont fait poursuivre parce qu'on fait souvent des parallèles sur la Bourgogne et le Piémont, bien que ce n'est pas du tout le même cépage, mais bref, en tout cas, c'est intéressant. Donc, c'est un domaine qui remonte à très, très longtemps dans le temps. Dans les années 60-70, il y a la famille Boschkis par alliance qui va se joindre aux Borgogno. Et donc, Franco Boschkis va marier Ida Borgogno. Ils vont commencer à s'occuper en conjoint de ce domaine-là. Et les enfants de la famille vont finalement vendre le domaine parce qu'à cette époque-là, la seule personne qui était en mesure de s'occuper de ce domaine-là, c'était Cara Boschkis. Et depuis les années 80, avait décidé d'aider la famille Pira et Figli, qui est le domaine de l'autre côté de la rue dans le village de Barolo. Et elle a dit, moi, je ne peux pas reprendre cette propriété-là, ça va être trop de charges à mon compte. Donc, au tournant des années 2008, la famille Borgogno-Boschkis, mais les Borgogno étant tous décédés, ont vendu ce domaine-là à un homme d'affaires assez riche, italien, Oscar Farinetti. Et Oscar Farinetti, c'est un magnat de la tech italienne. C'est un peu le Steve Jobs ou le...
Elon Musk.
Non, pas Elon Musk. On va pas aller là-dedans. Ça reste un homme qui est assez
respectable
et humble. Non, je cherche le gars de Microsoft.
Bill Gates.
Bill Gates. C'est un peu... On va faire un comparatif là, à Bill Gates. Et Oscar Farinetti, c'est à lui qu'on doit les somptueuses boutiques Italy, dans le fond. Son premier projet, ça a été de fonder les boutiques Italy qu'on a... à New York, il y en a une à Toronto, je pense, et beaucoup en Italie. Et à ça, le programme 20 des boutiques Italie était très important. Et Oscar s'est donné un projet un peu fou de posséder un domaine dans chacune des 22 productrices régions de vin, dans le fond. Et je pense qu'il a fini par atteindre son but. Il y en a même certaines régions où il y en a plus qu'un. Parce qu'il
fait du vin à Molise, là.
Oui, effectivement, il fait du vin à Molise. Mais le domaine Borgogno, pourquoi il porte un attachement émotionnel, c'est que c'est son fils Andrea. Donc Andrea, son fils, qui a repris les rênes du domaine et c'est lui qui vinifie. Il a amené, il a diminué la quantité de sulfite dans les vins, il a amené l'agriculture biologique aussi. Il travaille vraiment dans un intérêt qualitatif et prospère au niveau de la région. Donc, et les prix restent quand même raisonnables. On n'a pas passé d'un château grillé à 240$ à 580$ la bouteille. Non. Les Barolo restent dans des prix très, très raisonnables. Et là, on vous présente la Freisa qui se fait en importation privée. Il y a d'autres cuvées de Borgogno qui sont disponibles à la SAQ. Un cépage qui est un peu moins connu, mais qui est considéré la mère du Nebbiolo, dans le fond. Donc, elle est parente du Nebbiolo. Et quand on met le nez là-dedans, on voit, on n'est pas tellement très, très loin du Nebbiolo. On a par contre une trentaine qui est beaucoup moins imposante. On a un côté qui est un peu plus suave, qui est un peu plus racoleur et qui appelle à un autre c'est pas un vin de soif.
Non, non.
C'est pas tant plus tannique que l'autre vin d'avant, mais comme j'expliquais à Robert avant qu'on commence l'enregistrement, de positionner les deux dans un ordre, on aurait pu mettre l'autre avant, l'autre après, puis ça serait fait. C'est juste le Old Bunch, de par sa vinification carbonique, on a un côté plus craquant, plus fruité. Et ben, les vins italiens ont toujours un côté austère et pas un côté austère négatif. Là. C'est un austère positif, une amertume dans les vins italiens qui...
Oui, mais le Fresa a moins d'amertume que le Nebbiolo. Ouais. Il est vraiment plus fruité, c'est un peu plus gouléant que le Nebbiolo du Piémont. Et je trouve que c'est moins chaud aussi. On sent moins la chaleur.
Moi, tu vois, je ferais un rapprochement entre le premier vin. Ça fait très gamay de Savoie, justement. Ça fait très rouge de montagne, rouge de fraîcheur, sans tanin, sans amertume. Et je me questionnais, en fait, parce que je voyais sur le tête Langhe Fresa, la mention du cépage sur l'appellation. Comment ça passe?
Mais l'appellation Langhe
peut permettre
de situer les cépages. Langhe Nebbiolo, Langhe
c'est une appellation. Langhe Nebbiolo, c'est une appellation. Langhe Fresa, c'est une appellation.
L'appellation, c'est Langhe avec mention de cépage. Et elle fait référence à la région du Barolo.
OK.
Donc, il faut comprendre que le vin du Piémont n'ont pas... Ils font presque juste des vins sous appellation d'origine contrôlée. Normalement, on serait en IGP, donc indication géographique protégée, qui fait une référence à une aire géographique spécifique. Mais dans le cas du Piémont, ils ont l'appellation Langhe, qui est un DOC et non un DOCG.
OK. Puis tu accoles le nom du cépage.
Exactement. Qui va faire référence au Barolo et au Barbaresco, à l'aire d'appellation Barolo-Barbaresco. Et si on sort de ça, ben là, on va avoir Dolcetto d'Alba, Barbera d'Alba, et j'en passe, c'est des meilleurs. Là. Mais Fresa, je pense par contre, on n'a pas Fresa d'Alba, on n'a pas Fresa de... C'est Langhe Fresa. Okay. Donc,
quand on l'avait au caviste, qu'est-ce que je trouvais intéressant avec ce vin-là, je trouve que c'est un passe-partout.
Vraiment.
Tu sais, sur une table qui a plusieurs plats, c'est parfait. Parfait, ça passe partout. Ça va avec plusieurs mets, c'est un beau vin...
Sixième vin,
puis on a un petit aussi aparté. Le sixième vin, ça va être assez rapide. On s'en va dans un autre vin portugais de la même agence avec laquelle on travaille, qui est Uva, qui est de la même personne qui avait le blanc du dernier arrivage, qui ont les frères Lopez, je les salue. Ils font vraiment un travail assez incroyable d'aller dénicher des beaux producteurs avec, oui, une approche traditionnelle et une approche moderne. Là, on est vraiment dans le traditionnel portugais, Quinta da Fata, le DAO, donc DAO 2017. On est une des plus vieilles aires géographiques protégées d'Europe, à ne pas confondre avec le Douro, qui est la plus vieille appellation d'origine. Donc, l'appellation aire géographique versus appellation, cahier de charge avec les appellations. Donc, on a le droit de faire des choses ou pas. L'aire géographique, c'est juste on certifie une région. On a vraiment des conditions climatiques parfaites dans le DAO. On est cerné par des montagnes, protégé des vents froids, protégé des pluies estivales et des orages, mais beaucoup de microclimats. Par contre, on va parfois comparer le DAO à la Bourgogne, mais ça reste un parallèle trop peu. On n'est pas assez geek du DAO pour ça, là. Mais bref, on a des conditions climatiques impeccables pour faire pousser les mêmes cépages qu'on retrouve dans le Douro, Touriga National, Tinta Rorige et le Alfochero dans le cas qui nous concerne. Petite propriété familiale. Et pour vous donner une idée, c'est une propriété qui a presque pas de. A pas vraiment de legs en ce moment. Donc, elle survit parce qu'il y a des personnes qui croient en ce domaine-là, qui croient à la qualité de ce domaine-là. Et pour vous donner une idée, 80-85% du volume est pris par l'agence de vin au Québec. Donc, c'est quasiment un vin qui est exclusif pour le marché québécois, à quelques exceptions près. Si jamais il y a des gens qui font une visite dans le Portugal dans les prochains mois, faites juste vous envoyer un petit courriel. Là, ils font chambre d'hôte. Donc, fait louer et c'est vraiment très, très joli. Puis là, je ne vais pas m'attarder dans les détails. Là. C'est un vin hyper qualitatif qu'on n'a pas besoin d'intellectualiser. Ça goûte le bon vin portugais 2017. On commence à avoir de l'âge, on commence à avoir d'évolution.
C'est drôle parce que quand j'ai commencé à boire du vin, le DAO, pour moi, c'était... Quand je buvais du DAO, je voyais un vieux western américain spaghetti poussiéreux, austère. C'était pas le fun. Là. C'était comme, tu t'écoutes ça les yeux fermés, puis c'était la même chose que le DAO. Et là, je vois depuis des années l'évolution du DAO vers plus de précision, des tanins qui sont fondus, qui sont granuleux encore. Il y a encore ce grain, mais il est assumé. Le fruit ressort. C'est vraiment des produits, puis c'est encore pas cher, le DAO.
Les rapports qualité-prix incroyables, pour vrai, c'est super agréable. Puis ça, vous laissez pas vieillir ça. Il n'y a pas de vin de garde sur la table aujourd'hui. Là. Quoique peut-être certains blancs là, qu'on peut, on peut oublier, c'est pas grave. Quand on vous dit qu'il n'y a pas de vin de garde, il n'y a pas d'urgence non plus. Hein. On s'entend que c'est les 3-4 prochaines années, ça va s'ennuyer là-dedans. Là. Donc, mais c'est un super beau vin.
Non, vraiment très bien.
Et ça, avec les mêmes encore qu'on a fait, le ragoût de boulette, ça serait super bon avec ça. Ouais. Là. C'est un beau produit à rapport qualité-prix-plaisir, assez impressionnant. On va terminer le balado.
Là, avec un petit peu, c'est comme un extra, là. Parce que ouais, pour les gens qui veulent débarquer après une demi-heure.
On peut débarquer, mais on va pas débarquer parce qu'on va laisser la place à Marie-Noël. On va terminer le balado avec un petit entretien. J'ai toujours aimé et détesté les questionnaires de Proust. Tantôt, Robert parlait justement de Proust. J'étais à un cheveu de ne pas le faire, mais j'ai décidé de pousser mes recherches et au sujet de ce genre, de pousser mes recherches là-dessus. J'ai décidé d'aller avant parce que l'histoire derrière le questionnaire de Proust est assez intéressante. Est-ce que vous savez ça vient de où, le questionnaire de Proust?
Non.
Non.
Robert. Non, mais pour vrai.
Non, mais pour vrai. Pour vrai, j'ai peut-être déjà su, mais...
C'est donc, comme on est des passionnés d'histoire, je me permets de raconter la genèse de ce mythique questionnaire. Puisque
monsieur à la sono vient de sortir de la salle.
Puisque Marcel Proust passe son temps à chercher le temps, faute de temps, c'est pas l'homme qui est derrière le fameux questionnaire. Il l'a plutôt popularisé. À l'adolescence, Marcel découvre un jeu questionnaire populaire britannique qui se nomme Confession. Ce questionnaire nous permet d'élucider les goûts et aspirations des personnes qui y répondent. Et Marcel aurait rempli le questionnaire à quelques reprises au début et à la fin de son adolescence. Le questionnaire compte 31 questions, mais on va se limiter aux 31.
Oh, non,
alors, Marie-Noël, est-ce que tu accepterais de nous faire tes confessions du vin?
Oui.
Alors. J'ai juste adapté et je suis allé sur des choses, des questions aussi un peu moins connues là, du questionnaire de Proust. Alors, Marie-Noël, la alors, qualité...
Je veux juste dire que les prochains mois, on va choisir au hasard qui remplit ce truc-là.
La qualité que tu préfères chez un vin blanc?
Mon Dieu...
OK, t'es pas préparée?
Ben oui, je suis préparée. Okay. L'équilibre.
L'équilibre.
Oui.
Le principal trait de caractère d'un vin que t'aimes?
Herbacé.
Oh, herbacé. Okay. La couleur de vin que tu préfères?
Ça, c'est très dur. Je n'ai pas encore répondu. Mais oh, je vais dire rouge.
Rouge, parfait. Un cépage que tu aimes?
La Syrah.
La région productrice que tu préfères?
Le Rhône.
Le Rhône, c'est comme conséquent.
Oui. Ben, c'est pour ça que je suis allée. C'est pour ça que j'ai étudié en sommellerie, c'est à cause de la Syrah.
OK.
Ouais. Et je sais déjà c'est quoi la réponse, mais je te laisse répondre. Le cépage que tu maîtrises le plus.
Le Sauvignon Blanc.
Et est-ce que tu as aimé le Sauvignon Blanc?
J'ai adoré quand même le Sauvignon Blanc d'aujourd'hui. Il y a pas le qu'est-ce que j'aime pas dans le Sauvignon Blanc? C'est le côté buis, le côté trop pamplemousse. Okay. Mais sinon, comme ça, ça c'est comme sur un Sancerre aussi, là, j'adore le Sauvignon Blanc de côté Sancerre.
Et avant d'aller dans les trois dernières questions, comme je disais, Proust a fait ce questionnaire-là trois fois dans sa vie au courant de son adolescence. Et c'est des confessions. Donc, c'est normal que ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on est mis on the spot, mais ça peut changer.
Ouais.
Demain matin, tu pourrais refaire le questionnaire et tu pourrais changer.
Adorer le Sauvignon Blanc.
Non, non, mais oui, mais non, ça, le mépris pour le Sauvignon Blanc, je suis d'accord avec toi.
Vous êtes vraiment difficile, vous êtes dur avec le Sauvignon Blanc.
Ben, je suis d'accord avec elle, mais ça sera un jour si je fais mon questionnaire. Ton domaine favori aujourd'hui?
Aujourd'hui, le domaine le Laurus. Okay. C'est sud de... Ben, dans le fond, c'est Côte-du-Rhône, mais sur le sud.
Et tu peux peut-être juste en parler un peu plus, parce que le domaine de Laurus, je pense qu'il y a des vins à la SEQ.
Oui, ben dans le fond, toute la gamme est à la SEQ. Je trouve que c'est des vins quand même qui sont abordables. En arrière de ça, c'est un projet qui est parti en 2009. Et c'est Gabriel Meffré qui est en arrière de ce projet-là. Et c'est vraiment... Il y a du vin accessible à boire immédiatement, comme qu'il y a des trucs comme le Condrieux ici, qui est celui-ci, là. Super intéressant aussi. Dans le fond, moi, j'ai goûté la gamme au complet, puis dans mon petit cellier à la maison, j'ai à peu près tout. Puis c'est vraiment des vins de table. C'est ça que j'aime, c'est vraiment pour appuyer sur des plats.
Alors, Manuel, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je vais transmettre le balado à Jackie Blisson, notre première master of wine du Québec, parce que son copain.
Ben non.
Et export manager pour Gabriel Neff. Donc, peut-être tu vas avoir un voyage.
Un jour, oui.
Peut-être un voyage sur le bras.
Mais c'est une maison que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Puis pour vrai, j'ai raflé la sac de tous leurs produits.
Bon, ben ça sera dit. Je vais le mettre dans le détail, là, le lien sur l'Horus en SAQ.
Ouais.
Et ce que je déteste, ce que tu détestes par-dessus tout dans le vin.
Qu'est-ce que je dis? Le bois.
C'est avec les balados.
Le bois.
Ah, ben, dans le vin ou sur le vin?
Le vin. Le vin.
Je trouve que c'est guindé. Oui, je trouve qu'on est en train un peu de démocratiser cet environnement-là avec notre génération un peu, là. Mais je trouve que c'est guindé et que c'est rempli de préjugés.
C'est étonnant venant de la fille qui est rentrée des lunettes de soleil dans le studio.
Hey!
Alors, sur ce,
on devrait le transmettre aux membres pour voir qui répondrait à ce genre de... On se fera un petit Google survey, t'es rendu expert là-dedans. Hein.
Parfait, c'est bon. Mais sur ça, je vous souhaite un bon temps des fêtes. Merci, Marinelle, de t'être prêtée au jeu. Et Robert, je laisse le mot de la fin.
Ben moi, je suis très content qu'on ait inclus une femme dans cet univers masculin. Oui, première femme au monde à faire partie de la balado. Et ce ne sera pas la dernière. Mais merci beaucoup, tout le monde, de votre écoute ou pas. De votre support, on le sait qu'il est là. On vous a transmis un dernier courriel avant de populer l'offre du Club de vin à tous nos abonnés, mais on vous remercie encore de votre support. On prend une petite pause de 6-8 semaines, Louis-Jacques.
On se retrouve en février. Oui.
Et puis, on vous souhaite de bonnes, de saines et de mémorables fêtes 2022.
Bonne journée.
Merci.